une histoire particulière. Premier noir à écrire un best-seller, Richard Wright, petit-fils d'un esclave noir, connut dès son enfance la pauvreté et la violence de la ségrégation raciale aux États-Unis. Militant antiraciste, il ne cessera de dénoncer, dans des romans comme Un enfant du pays ou dans des essais comme Puissance noire, les humiliations imposées à des millions de personnes en raison de leur couleur de peau. Aujourd'hui, Michel Pomarède et Jean-Philippe Navarre vous racontent l'histoire d'une autre militante, Harriet Tubman.
Quand on est noir et mort, on ne peut pas raconter aux autres des histoires. Alors avance ou tombe.
Elle est née dans les années 1820. Entre 1820 et 1825, il n'y a évidemment pas de registre tenu à cette époque-là, surtout pour des esclaves. Et elle naît dans le Maryland, dans un état donc du sud, esclavagiste.
Harriet Tubman, la Moïse noire de l'Amérique. Michel Pomarède, Jean-Philippe Navarre.
Alors son père s'appelle Ben, il ne vit pas avec sa mère, il vit dans une autre plantation, mais il se voit tous les dimanches.
La biographe Anouk Bloch-Henry.
Elle vit avec sa mère et ses nombreux petits frères et sœurs, puisqu'ils sont 10 dans la fratrie, et elle vit chez un autre donc maître.
Les deux parents d'Harriet Tubman venaient de deux plantations différentes. Il se trouve que les deux maîtres, une femme et un homme, se sont mariés. Et donc leur cheptel, pour reprendre les mots de l'époque, se sont mêlés. C'est ainsi que les parents se sont rencontrés. Dans le cours de sa vie, Ben, le père, qui était un esclave modèle, a été affranchi par son maître. Mais pas la mère d'Harriet Tubman.
Anne Garé-Bourrier, professeure des universités à la faculté Clermont-Auvergne.
Donc il y a eu cette sorte de couple qui a eu 9 enfants, nés d'une mère esclave, donc 9 enfants esclaves. C'était la règle, dont Harriet. Une situation d'ambiguïté qui aussi éveille une conscience particulière chez Harriet.
Vous savez quoi? L'esclavage, c'est l'antichambre de l'enfer.
Et Rit, la mère, est elle-même d'un caractère assez bien trempé.
Oui. C'est une personne qui a une forte personnalité et qui, d'ailleurs, Harriet... Donc, en fait, au départ, elle s'appelle Araminta. On la surnomme Minty.
Harriet a un parcours tout à fait particulier, qui est un parcours de violence, qui n'est pas unique, bien évidemment, on l'imagine. Elle a été louée dès son plus jeune âge, à partir de 5 ans, son maître étant assez pauvre finalement, les brodesses n'avaient pas énormément d'argent, donc ils louaient leurs propres esclaves, une sorte de commerce parallèle. Et elle a été louée pour surveiller un bébé et empêcher que ce bébé pleure la nuit. Donc elle était battue régulièrement dès que ce bébé pleurait, elle a été battue, fouettée plus de 5 fois avant le petit déjeuner. Donc ça laisse des séquelles, elle a eu des traces sur le corps de ses mauvais traitements et elle a par ailleurs, à l'adolescence, toute jeune, reçu un poids en plein visage de plus d'un kilo, d'un contremaître, ça c'était celui qui était en dessous du maître, ils étaient pires en général que les maîtres, et elle a eu une commotion cérébrale, quelque chose de très très violent, et toute sa vie elle a eu des crises. Aujourd'hui on appelle ça de la narcolepsie, elle avait des espèces d'évanouissements profonds. Ce qui fait qu'elle est devenue, soi-disant, une mauvaise ouvrière. Elle tombait dans les champs et on a cherché à la vendre assez rapidement. Mais elle a pris cela, elle, et d'ailleurs son nom de Moïse vient de là, pour des signes du divin. Et chaque fois qu'elle avait une sorte d'évanouissement, elle avait une vision qu'elle décodait et analysait en termes religieux. C'était des sortes de rêves, en quelque sorte. Et voilà, c'est ainsi que s'est construite, on va dire, sa pensée religieuse et l'idée qu'elle était élue.
Moi, j'ai compris que dans l'existence, j'avais droit à deux choses, la mort ou la liberté. Personne ne me rattrapera vivante. Je me battrai pour mon indépendance et quand l'heure aura sonné pour moi de partir, alors oui, le Seigneur laissera à ceux qui me pourchassent le soin de me tuer.
L'église noire qu'elle était sur les plantations ou ensuite dans des églises qui acceptaient les noirs en dehors des plantations, essentiellement des baptistes ou des méthodistes, c'est les deux grandes églises qui avaient accepté les noirs pendant l'esclavage, elle a formé une conscience communautaire. Elle a aidé véritablement à construire une pensée de rébellion. l'idée d'avoir un cheminement un peu parallèle à celui de Moïse à habiter les premiers esclaves rebelles. Et c'est vraiment ce qui motive Harriet Tubman en particulier, qui a une conscience religieuse exacerbée.
Je cite Marguerite Yourcenar dans « Fleuve profond, sombre rivière » paru en 1966, où elle reprend cette figure de Moïse tirée de l'Ancien Testament, donc retraçant le combat des Juifs contre le Pharaon.
« Descends, Moïse, et va vers le rivage. Parle au vieux roi du peuple égyptien. Dis-lui que Dieu t'a sorti de l'esclavage. Dis-lui, notre Dieu va délivrer les siens. Vous ne peinerez plus sur la terre étrangère. Le vieux Pharaon ne vous tourmentera plus. Descends, Moïse, et va vers la rivière. Le Seigneur Dieu va sauver le peuple élu. »
Tout à fait.
Le peuple élu, à l'époque, c'était les Juifs. Et là, ça devient le peuple des esclaves qui se rebellent contre les maîtres.
Ça devient le peuple noir. Tout à fait, ça devient le peuple noir et c'est véritablement cette parole qui va d'ailleurs construire, on va dire, les gospels, hein, cette parole d'évangile, mais aussi le jazz et le blues dans une certaine mesure, même si la parole religieuse est moins présente. Et en tout cas, c'est ce chemin des Juifs en dehors de l'oppression égyptienne, hein, qui va motiver ce mouvement ou en tout cas donner l'espoir, puisque d'autres esclaves ont pu s'échapper et que dans le texte officiel, leur nom est cité, Moïse existe, il y a véritablement une assimilation, une identification des plus grands rebelles noirs à ce moment-là autour du personnage de Moïse. C'est d'ailleurs ainsi qu'on appellera communément Harriet Tubman, la Moïse noire.
Harriet Tubman, la femme qui libéra 300 esclaves. Ça pourrait être le titre de gloire de cette femme extraordinaire. C'est aussi le titre du livre que vous avez consacré à cette ancienne esclave noire, Anouk Bloch-Henry. Racontez-moi un petit peu comment vous êtes décidé à rentrer dans la peau de cette femme, puisque le livre que vous lui consacrez est écrit à la première personne.
Le choix était difficile à prendre, hein, entre la troisième personne et la première, surtout qu'elle parle avec un accent du Sud, qu'elle est analphabète, et qu'il a fallu trouver en français une voix qui corresponde un petit peu à ce que j'avais pu en lire en anglais.
Alors justement, parlons de la source principale de ce livre, de ce monologue que vous adressez aux adolescents d'aujourd'hui. C'est « Scènes de la vie de Harriet Tubman » et c'est signé Sarah Bradford et ça date de 1869. Extraordinaire confession de cette femme qui se livre à une abolitionniste blanche.
De Noël à mars, le jour, je travaillais autant que je pouvais et la nuit, j'adressais au Seigneur mes prières pour mon vieux maître. Ô Dieu, convertissez-le, changez son cœur.
Sarah Bradford, en fait, vivait dans l'endroit où Harriet Tubman avait sa maison et où étaient ses parents. Et elle était déjà assez connue, Harriet Tubman, à cette époque-là.
Les larmes coulaient pendant mes prières au Seigneur et aussi pendant mon labeur. Un jour, j'étais près d'un cheval qui buvait à la rivière. J'ai pris de l'eau dans ma main et je me suis adressée à Dieu. Nettoyez-moi, lavez-moi de mes péchés. Rentrée à la demeure, j'ai pris un balai et j'ai commencé à nettoyer. Je pleurais. Je lui ai encore demandé « Si vous trouvez quelques vices dans mon cœur, frottez et nettoyez pour qu'il n'en reste rien. » Et puis un jour, j'ai changé le contenu de ma supplique. « Si vous n'arrivez pas à transformer le cœur de mon maître, tuez-le. Débarrassez-moi de lui. »
Anne-Gorée Bourrier, vous êtes spécialiste de l'histoire américaine et notamment de l'esclavage aux États-Unis. Harriet Tubman, c'est pas la première à se rebeller et à vouloir fuir son état d'esclave dans le sud des États-Unis. Il y en a d'autres qui l'ont précédée.
C'est la première femme, néanmoins, à avoir marqué l'histoire et ce mouvement d'insurrection et à avoir après dirigé des groupes armés pendant la guerre et avoir pris les armes pour défendre les esclaves. Donc là, c'est vraiment la première féministe noire, on pourrait dire.
Ces noirs ne sont pas seuls, il y a aussi des blancs qui les aident.
Oui. Alors ces blancs sont essentiellement, dès le début du mouvement d'insurrection aux années 1830-40, des religieux aussi. Ce sont des Quakers pour beaucoup d'entre eux. C'est un groupe qui s'est installé en même temps que les Puritains hein, au XVIIe siècle sur le sol américain. Un groupe religieux très 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 fervent, mais à la grande différence des Puritains, tourné vers les autres, tourné vers les minorités, tourné vers les femmes aussi. Donc les Quakers et les femmes Quakers ont été très très agissantes dans le réseau du chemin de fer souterrain et dans le mouvement abolitionniste. Et puis ensuite les abolitionnistes du Nord. tous les grands penseurs intellectuels du Nord blanc ont également, bien sûr, œuvré à la mise en place de ce réseau et à la pensée abolitionniste, qu'on pense à William Lloyd Garrison, par exemple. Ils ont vraiment dirigé, structuré un mouvement qui partait quand même des Quakers à l'origine.
Pendant tout ce temps, j'avais, dans mes rêves et mes visions, la même image qui revenait, celle d'une ligne à franchir. De l'autre côté, je voyais des pâturages verdoyants, de belles fleurs et de charmantes femmes à la peau blanche. Elles me tendaient les bras, mais je n'arrivais pas à les rejoindre. Je tombais toujours avant d'arriver à franchir cette ligne.
Ce chemin de fer dont vous parlez, ce chemin de fer souterrain, Pierre Bourrier, c'est pas un vrai chemin de fer en fait.
Non, le mot important c'est souterrain, mais c'est un réseau de fuite qui se construit à partir de la bonne volonté et de la foi de ces Noirs libres. Dans l'état du Maryland par exemple, qui est celui où vivait Harriet Tubman, il y a à peu près 50% de Noirs libres qui n'ont pas été placés en esclavage, qui n'ont pas été achetés, qui sont libres du fait de leur naissance. La moitié de la population noire dans le Maryland, elle est née sur la plantation, elle est donc serve par définition. Et ces Noirs libres qui côtoient des Noirs qui ne le sont pas portent une parole, née en général de l'Église. Et donc il y a une parole autour du chemin de fer souterrain, des informations qui commencent à circuler, que les Noirs esclaves n'entendent pas et ne comprennent pas au début. Mais c'est en fréquentant, d'ailleurs si on reprend l'exemple d'Harriet Tubman, son père est devenu libre, sa mère a été esclave toute sa vie. Donc même dans le cadre de Tubman, la notion de Noir libre, elle existe aussi. Ça veut dire qu'on peut libérer, on peut arriver à se sortir de l'esclavage. Et c'est vraiment ce réseau souterrain qui fonctionne par code, toute une terminologie adaptée au chemin de fer. Donc vous avez un conducteur qui est celui qui va diriger le groupe, vous avez des gares qui sont les lieux où on va les héberger temporairement. Eux sont appelés les passagers ou bien le fret, ça peut dépendre. Et au début quand on croise ce lexique et qu'on est esclave, on ne comprend pas. Et puis, peu à peu, on est initié lorsqu'on a l'esprit ouvert à ce genre de rébellion, l'idée de fuir, et on comprend qu'il y a une possibilité de s'échapper si on se rapproche des bonnes personnes.
Et ce qui m'a fascinée aussi dans ce personnage-là, c'est qu'elle avait absolument aucun doute. Et Dieu lui parlait en direct. Mais vraiment, il lui donnait des indications sur la route à suivre. Elle avait des visions, des prémonitions. Il lui donnait des informations utiles. Par exemple, un jour, elle avait rêvé qu'elle avait $25 qui l'attendaient chez Thomas Garrett, qui est un Quaker qui la recevait très souvent. Et quand elle est arrivée chez Thomas Garrett, et c'est une histoire qui nous est racontée par Thomas Garrett, donc on ne peut pas la mettre en doute. D'habitude, il la fournissait en vivres et en chaussures pour elle-même et puis pour les gens qui l'accompagnaient. Et cette fois-ci, il lui dit « Ah, tu viens pour des chaussures comme d'habitude ?» Elle lui dit « Non, cette fois, je voudrais un petit peu d'argent. » Et il dit « Mais tu sais, je suis pas très riche, j'ai des problèmes d'argent moi aussi. » Elle lui dit « Oui, mais c'est Dieu qui m'a dit que tu avais de l'argent pour moi. » Et alors lui, il venait de recevoir l'argent, donc d'un air malicieux, il lui dit « Ah oui, et combien est-ce que Dieu t'a dit que je devais te donner ?» Elle lui dit « $25 ». Il tire de l'argent de son tiroir et en fait c'était $24.75 avec le change actuel. Et ça lui est arrivé maintes fois dans ses périples de recevoir des indications comme ça de Dieu, extrêmement concrètes. Par exemple, à un moment, elle prenait une route qu'elle avait prise de nombreuses fois et là, elle entend des voix qui lui disent, Dieu, qui lui dit « Non, ne va pas tout droit, prends plutôt à gauche ». Donc elle s'arrête, elle fait arrêter les gens avec qui elle était et donc ils prennent à gauche, elle tombe sur une rivière, il n'y avait pas de pont. Et elle interroge Dieu, elle lui dit « Qu'est-ce que je fais maintenant ?» Il lui dit « Vas-y, il n'y a pas beaucoup d'eau, tu peux passer. » Et elle passe. Et de l'autre côté, elle retrouve des gens qui l'amènent jusqu'à la maison. Encore une fois, c'était Thomas Garrett qui devait l'accueillir et qui s'est précipité vers elle en lui disant « Mais on était tellement inquiets parce que le chemin que tu devais prendre était infesté de patrouilleurs et tu aurais été prise. »
C'est une jolie parabole tout ça, Anouk Bokhari. Elle prie Dieu, elle prie même Dieu pour son maître, pour son salut. Voici ce qu'elle dit.
« Si vous n'arrivez pas à transformer le cœur de mon maître, « Tuez-le, débarrassez-moi de lui. »
Et quelques jours après, il était mort, ou quelques semaines. Elle avait aussi acquis une grande intuition, déjà de son père. Son père lui avait appris beaucoup de choses, notamment ce qui concernait de suivre l'étoile polaire pour aller vers le nord. Et elle avait été, longtemps, elle avait travaillé dans les bois aussi. Donc elle avait observé les animaux, notamment. Et elle avait appris beaucoup d'attitudes, des animaux qui écoutent énormément, qui sentent. Et tout ça, ce sont des instincts qu'elle a acquis.
Quand elle a souhaité très très fort s'enfuir, elle a essayé d'entraîner son mari avec elle et deux de ses frères. Elle s'est mariée deux fois. La première fois, 1844, elle était encore esclave. Elle s'est mariée avec John Tubman, qui était un homme libre. Et malheureusement, son mari a dit « Ben non, moi je suis très bien ici, je ne suis pas esclave. » Il est resté là. D'ailleurs, quand elle est revenue le chercher quelques années après, il était remarié. Donc il l'avait vraiment abandonné. Et ses deux frères, qu'elle avait vraiment entraînés avec elle dans cette fuite, on est en 1849, ont rebroussé chemin quelques miles après le départ, pris de panique, pris d'angoisse. Donc elle a fait le premier chemin vers Philadelphie, seule, entièrement seule.
Quand j'ai réussi à franchir la frontière, j'ai regardé mes mains pour savoir si j'étais bien la même personne. Il y avait une telle lumière, une telle joie répandue sur tout le paysage. Le soleil s'est levé et a déversé comme de l'or à travers les branches des arbres. Et cet or s'est répandu sur les champs aux alentours. J'ai eu la sensation d'être arrivée au paradis.
Alors le nord qu'elle atteint en 1849, c'est un paradis. Si on le compare effectivement au Maryland. Donc quand elle l'atteint la première fois et qu'elle rencontre les premiers abolitionnistes noirs qui gèrent l'Underground Railroad, typiquement William Steele qui va vraiment la prendre en main et la chapeauter, qui était noir lui-même, oui c'est le paradis. Tous ces noirs libres, tous ces gens qui peuvent vivre, avoir un petit emploi, trouver un petit peu moyen de gagner de l'argent, même si c'est peu de choses, c'est le paradis. Cependant, un an après, ça devient l'enfer, à nouveau. Il y a une loi qui est passée, évidemment l'Amérique constate la fuite régulière d'esclaves du sud vers le nord, et elle passe cette loi, la loi des esclaves fugitifs, 1850, qui autorise les maîtres à aller rechercher leurs esclaves dans les états non esclavagistes et les ramener sur la plantation, ce qui était interdit jusque-là. Ce qui donne aux planteurs tous les droits, et ce qui donne aux abolitionnistes qui aident les esclaves à s'enfuir également, ce qui les met en grand danger, parce que cette loi autorise à les emprisonner, à leur donner des amendes, à les punir. Ça crée donc un nouvel essor, on va dire, dans l'esclavage, et ça renforce le droit du maître. Donc non, à ce moment-là, à partir de 1850, même les États libres deviennent des États dangereux, et il n'y a plus qu'une solution, c'est d'aller plus loin encore, jusqu'au Canada.
J'étais passée de l'autre côté. J'avais rejoint le Nord. J'étais libre. Mais il n'y avait personne pour m'accueillir sur cette terre de liberté. J'étais étrangère en cet étrange pays. Mon foyer, après tout, c'était le Maryland, au sud. Mon père, ma mère, mes frères, mes sœurs, mes amis. Tout le monde était là-bas. J'avais dans les oreilles leurs râles et leurs soupirs d'esclaves. J'avais vu leurs larmes couler. C'était décidé. Je donnerais chaque goutte de mon sang pour qu'il soit libre. J'allais m'installer dans le Nord et il me suivrait, avec l'aide du Seigneur. Je me suis de nouveau tournée vers lui. Je m'en remets à vous. Et vous m'aiderez tout au long du trajet.
Il faut dire que la tête de Harriet Tubman est mise à prix, à l'époque, 40 000 dollars. Donc sa maîtresse délaissée met sur sa tête une somme considérable pour la récupérer.
Oui, pendant un long moment, on entend parler de ce Moïse qui sauve les esclaves du Maryland, vient les rechercher, parce qu'elle prend la décision, Harriet Tubman, de revenir plusieurs fois, on le sait. Et sa maîtresse identifie tout de suite que c'est elle. Cette petite fille qui était rebelle, cette jeune fille qui a survécu à une blessure qui aurait dû la tuer, cette personne qui n'obéissait pas bien, qui dormait tout le temps, c'est elle. Mais les maîtres, eux, et les contremaîtres n'avaient pas du tout identifié que ce Moïse dont on parle de plus en plus était une femme. C'était d'ailleurs inconcevable. Il faut que ce soit une maîtresse qui y ait pensé, une femme elle-même.
Elle était décrite sur les affiches, il y avait sa description physique. Et alors elle était très rusée, parce que comme il était dit qu'elle était analphabète, elle voyageait toujours avec la Bible ou avec un journal qu'elle faisait semblant de lire très consciencieusement. Elle était forcée de se déguiser parfois en paysanne, parfois en femme du monde. Hein. Une fois, ça lui est arrivé, parfois en homme.
Qu'est-ce qu'on a ri ? Alors comme ça, nous les Noirs, on était les indigents et eux les Blancs, les intelligents. Mais on n'était pas assez bêtes pour prendre la route en plein jour. Alors j'ai chanté. Adieu mon vieux maître, faut pas m'en vouloir. Si je vais au Canada, là où sont libres les esclaves noirs.
Il y a une photo que j'aime beaucoup d'elle quand elle s'est déjà évadée, elle a déjà eu plusieurs voyages dans le sud. Son visage est extrêmement dur. Dans son regard, il y a une détermination qui se lit, qui fait presque un petit peu peur. Et pour moi, cette image est liée au moment où, dans ses voyages, elle avait un pistolet avec elle, non seulement pour se défendre des éventuels chasseurs de primes qui seraient à ses trousses, mais également pour se défendre des esclaves qui pourraient vouloir rebrousser chemin. Elle leur mettait le pistolet sur la tempe et elle leur disait « Je peux pas prendre le risque de qu'on soit tous mis en danger à cause de toi. » Soit tu restes là, soit tu restes avec nous, tu repars, soit je te tue. Et elle l'aurait fait. Et elle dit après qu'elle n'a perdu jamais aucun passager.
Swing low, sweet chariot.
La première fois que je me suis mise à chanter cet hymne, ils n'ont pas osé sortir des champs pour me rejoindre. J'ai dressé l'oreille pour savoir si la voie était libre et j'ai entonner à nouveau l'air. Swing low, sweet chariot. Alors là, ils sont venus à moi.
50 000 personnes se sont échappées par le réseau Underground Railroad et à elle seule, Harriet Tubman a fait fuir à peu près 300 esclaves. Qu'est-ce qu'elle devient ensuite, une fois la guerre de sécession, on va dire, intervenue, une fois réglée ce problème des esclaves? Qu'est-ce qu'elle devient elle-même?
Alors les chiffres sont flous sur le nombre d'esclaves qui ont réussi à s'enfuir, entre 50 000 et 100 000. Donc vous voyez, comme il n'y a pas d'archives, on ne peut pas le savoir exactement. Harriet Tubman, déjà, elle va avoir un rôle avant même la fin de la guerre, hein, puisqu'elle va participer à la guerre. Donc une fois qu'elle a fait ses missions, qu'elle estime qu'elle a ramené sa famille, puisque c'est son premier objectif en état libre et au Canada, elle s'investit dans la guerre, donc elle va même diriger un peloton armé, elle va mener une guérilla véritablement, hein, puisqu'elle sera armée par les nordistes. Et après, elle a toute légitimité pour devenir ce qu'elle deviendra d'ailleurs, hein, une abolitionniste. Mais on va dire, le combat est gagné. Simplement, elle sait très très bien que le combat des femmes noires n'est pas du tout gagné. Donc elle devient féministe noire. Une voix politique en quelque sorte, même si elle déteste s'exprimer publiquement. Mais elle sera aidée, pour pouvoir faire entendre cette voix, elle sera aidée par des abolitionnistes blanches, comme par exemple Bradford, une abolitionniste blanche qui va publier un livre, une sorte de livre de mémoire autour d'elle en 69, donc juste après la guerre. Et ça, ça va donner une aura quand même à ce personnage qui va s'engager pour défendre et qui va accompagner d'ailleurs les Noirs les plus miséreux, hein, jusqu'à la fin de sa vie. Elle va même ouvrir un hospice dans lequel elle finira ses jours tard, puisqu'elle vieillira, elle mourra très âgée, plus de 91 ans on estime, puisqu'on ne connaît pas exactement sa date de naissance. Mais c'est une militante dans l'âme de toute façon. Ça reste une militante, elle n'a même pas de choix.
Anne Garé-Bourrier, elle meurt à Harriet Tubman en 1913. Et c'est on ça. Pourrait dire que on entend parler à nouveau d'elle dans l'histoire américaine très récemment, en 2016, fait. Parce que elle arrive en tête d'une consultation lancée pour pourquoi en fait mettre un nouveau visage sur un billet de $20, ou plutôt sur un des côtés du billet de $20, si mes informations sont exactes.
Oui, vous avez raison, et ça a été, c'est un des choix de l'administration Obama, et on le comprend aisément. Le ministère du Trésor américain, suite à une consultation, a proposé que ce soit le visage d'Harriet Tubman qui remplace, et c'était très judicieux, on peut le dire, hein, celui d'Andrew Jackson. Alors Andrew Jackson, bon, il a été président des États-Unis, c'est son titre de gloire, il a surtout déporté les Indiens avec la loi de 1830, et il avait lui-même des esclaves. Ça fait quand même assez longtemps qu'Harriet Tubman est un personnage public, hein, depuis 1990, elle est quand même célébrée, elle a des musées, elle est connue et reconnue. Mais là, ça aurait été pour l'administration Obama une reconnaissance concrète, on va dire, le nom d'une humaniste féministe noire sur un billet vert. Ça a donné quand même une indication de l'évolution du capitalisme à l'américaine vers quelque chose d'un peu plus humaniste. Et évidemment, c'est l'administration Trump qui a annulé ce projet. Donc elle ne sera pas sur le billet de $20 en 2020 comme cela était prévu. C'est reporté à 2028. Tout le monde espère qu'il y aura un revers et que nous n'aurons pas à attendre jusqu'à 2028 pour voir ça, ce qui serait une révolution tout de même.
Le revers dont vous parlez, c'est la non-réélection de M. Trump, évidemment.
Évidemment. Évidemment.
Donc aujourd'hui, Anne Garay-Bourrier, on peut aller célébrer Harriet Tubman, non pas sur un billet de $20, mais aller se recueillir au Harriet Tubman Underground Railroad National Monument au Maryland. On peut aller visiter la National Women's Hall of Fame. Et on peut regarder les étoiles, puisqu'il y a un astéroïde qui a été nommé Harriet Tubman en 2010. Harriet.
I don't know if you know how extraordinary this is, but you have made it 100 miles to freedom all by yourself. Would you like to pick a new name to mark your freedom?
Harriet Tubman.
On peut aussi aller au cinéma parce qu'un film important est sorti aux États-Unis qui s'appelle Harriet. Et c'est le premier film, grand film subventionné par Hollywood, ou en tout cas par les... ce qu'on peut appeler un blockbuster, puisqu'il y a quand même un casting intéressant dans ce film. Il y a Viola Davis, il y a des grandes figures noires.
Et à noter que ce film d'Hollywood devait être fait déjà il y a 25 ans. Et il n'a pas été fait. Hollywood n'était pas prêt du tout à faire ça. Mais quand il avait été question que ça se fasse, l'actrice devait être une femme blanche. Julia Roberts. Julia Roberts devait être Harriet Tubman il y a 25 ans. Incroyable. Hein. L'Amérique n'était pas prête encore, hein, du tout. C'est dingue. Hein.
Non, ça raconte l'histoire des États-Unis.
You are welcome here anytime. If I'm free, my family should be too. I made up my mind, I'm going back.
Je peux le dire, j'ai guidé mes semblables pendant 8 ans le long de l'Underground Railroad. C'est pas pour me vanter, mais j'ai jamais déraillé ni perdu en route un passager. Le Seigneur m'a accompagné dans ce périple. Il a allumé l'étoile du berger dans les nuées pour me guider. C'est lui qui m'a donné force et volonté. C'est lui qui a désiré pour moi la liberté.
Do you know what would happen if you got caught? You got lucky, Harriet.
Il y a une citation qui est tirée donc du livre de Sarah Bradford qui dit dans la langue originelle d'Harriet Tubman, Dead niggers don't tell tales. Donc c'est pas les noirs qui sont morts qui racontent des histoires.
Exactement.
Elle, bien vivante.
Oui, oui, c'est un peu inexplicable pourquoi elle a été aussi longtemps tenue dans l'ombre. Un petit peu à la mesure de sa vie d'ailleurs. Hein. Parce que même pendant sa vie, malgré le fait qu'elle ait approché des gens très connus de son temps, comme Frederick Douglass, comme le sénateur William Seward, qui a été secrétaire d'État de Lincoln, quand même, chez qui elle séjournait très régulièrement. Malgré tout ça, en France, elle commence juste à être un petit peu connue.
Swing low, Harriet, swing low. Swing low, Harriet, swing low. Swing low, Harriet, swing low. Well, low, 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 low.
Harriet Tubman, la Moïse noire de l'Amérique. Avec Anne Garay-Bourrier, professeure à l'université Clermont-Auvergne, Anouk Bloch-Henry, auteur de Harriet Tubman, la femme qui libéra 300 esclaves, aux éditions Oscar, extrait de la biographie d'Harriet Tubman, écrite en 1869 par Sarah Hopkins Bradford. Texte lu par Gigi Ledron. Prise de son Jean-Michel Bernot. Mixage Olivier Dupré. Réalisation Jean-Philippe Navarre, recherche musicale Virginie Grasset, un documentaire de Michel Pomarède.
La suite de l'histoire d'Harriet Tubman, ce sera demain à 13h30, mais pour l'instant, c'est comme chaque samedi, l'heure de votre séance cinéma avec Antoine Guillot.